Chapitre 57. Lila ne se relaxait jamais, parce qu'elle ne savait pas comment faire selon Bannon. En permanence, elle était sur ses gardes, prête à bondir. Même pendant l'amour, alors qu'elle lui manifestait un peu de tendresse, elle lui faisait penser à un ressort toujours susceptible de se détendre d'un coup. Tandis qu'elle le guidait le long des rues en pente, le jeune escrimeur paria qu'elle n'avait pas en tête une promenade en amoureux. « Nous devons être vigilants en permanence, » dit-elle. Depuis le soir de l'évasion, après l'attaque surprise, elle oubliait parfois de donner du « mon gars » à Bannon, une marque de respect ou une simple distraction. « La muraille nous protège depuis des millénaires, mais il ne faut pas oublier nos autres défenses côté fleuve. » Dans le quartier des marchands, Lila s'arrêta devant l'entrée d'un tunnel d'approvisionnement creusé dans la falaise. Correspondant avec des monts de charge, c'était un autre moyen de faire circuler les cargaisons des bateaux fluviaux. Curieux de voir la suite, Bannon suivit Lila dans le passage éclairé par des torches. En chemin, ils croisèrent des dockers musclés qui faisaient rouler devant eux des tonneaux et des charrettes lestées de sacs de grains tirés par des yaksen ou des colosses aux pectoraux saillants. « D'où viennent ces provisions ?» demanda Bannon en allongeant le pas pour ne pas se faire distancer par sa compagne. Ildakar commerçait avec les villes de montagne, il le savait, mais le siège d'Outros avait mis fin à ses échanges. « Quand nous étions sous le linceul, Ildakar devait vivre en autarcie. Nos réserves sont considérables. C'est pour ça que le général ne nous affamera pas, même s'il attend très longtemps. » Bannon s'arrêta devant des abreuvoirs remplis de gros poissons aux yeux déjà vitreux qui tentaient encore de respirer. « Une pêche récente ?» dit le jeune escrimeur. « Dans le fleuve ?» Après la disparition du linceul, beaucoup de villages de pêcheurs nous ont proposé leur prise. Malgré le siège, le commerce continue de ce côté-là de la ville. Après quelques minutes, les deux jeunes gens s'arrêtèrent devant une large ouverture qui donnait directement sur la pique qui dominait le fleuve. Regardant en bas avec la moracite, Bannon découvrit que la falaise n'était pas aussi imprenable qu'on aurait pu le croire. Entre les marches taillées dans la roche, les échelles, les monts de charge, les rampes et les multiples tunnels, il y avait beaucoup de points d'accès à défendre. Juste devant les deux jeunes gens, des corbeaux se poursuivaient très au-dessus de l'eau. « Il faut bien des voies de communication entre le fleuve et la ville, » résuma Lila. Avec ses trois amis, Bannon avait déjà eu un aperçu de tout ça. C'était donc par un tunnel de ce genre que les esclavagistes avaient fait passer leurs prisonniers avant de les vendre sur le marché aux esclaves. Au souvenir de Cor, ce maudit capitaine, Bannon eut envie de vomir. « C'est moins dangereux qu'il y paraît, » dit Lila. « En cas d'attaque venue du fleuve, il suffit de couper les cordes des monts de charge pour nous isoler. » Lila se pencha, les pieds à quelques pouces du vide. Rien qu'à la voir, Bannon en eut le vertige. « Mais nous n'avons jamais dû recourir à des mesures si radicales. » Se laissant glisser vers le gouffre, Lila trouva aisément des marches taillées dans le granit et, sans se tenir à rien, gagna rapidement une plateforme de monte charge quelques 20 pieds plus bas. Voyant Bannon hésiter, elle l'encouragea du geste. « Viens avec moi !» Décidé à ne pas se dégonfler devant la moracite, le jeune escrimeur obéit et découvrit des marches beaucoup moins abruptes et étroites qu'il l'aurait craint. Jetant un coup d'œil à Lila qui l'attendait sur la plateforme, il comprit qu'elle avait voulu le mettre à l'épreuve. Dès qu'il l'eut rejointe, sans se plaindre une seule fois, elle s'engagea sur d'autres marches et il la suivit. À mi-chemin, sur une corniche qui lui inspirait confiance, Bannon se retourna pour sonder la falaise. Très lisse, la roche ne semblait pas avoir souffert des intempéries. Une bonne centaine de pieds plus bas, l'onde bleu-vert du fleuve coulait paisiblement. Deux barges étaient à quai. Sur l'une, des dockers récupéraient des tonneaux tandis que l'autre était chargé de blocs de pierre et d'éclats de roche. Via les monts de charge et les tunnels, tout ce matériel serait bientôt en sécurité en ville. Bannon remarqua que quelques monts de charge s'élevaient sans que nul tire sur leurs cordes. Un coup de pouce de certains négociants détenteurs du don, sans doute. Deux niveaux plus bas, alors que les jeunes gens s'engageaient sur une échelle, Bannon remarqua un petit mont de charge sur lequel trônaient deux cuves remplies de poissons encore frétillants. Beaucoup plus haut, des travailleurs tiraient sur des cordes pour faire grimper cette manne. Malgré les troubles et le siège, les ouvriers sur ce site échangeaient des plaisanteries comme si tout était encore normal. L'increvable optimisme des hommes, même au bord du gouffre, enfin métaphoriquement parlant. La descente continua. Prudent, Bannon préféra garder les yeux rivés sur les épaules nues de sa compagne. Il nota quand même qu'elle se dirigeait vers la base sud de la falaise, empruntant des escaliers et des échelles qui se décalaient dans cette direction. Sur une plateforme, Lila montra à son compagnon un des toboggans de bois qui alimentaient les fameux aqueducs d'Ildakar. Stupéfait, le jeune homme s'aperçut que l'eau remontait le long de la structure, ce qui aurait dû être impossible. Les runes gravées dans la roche tout autour de ces chutes d'eau inversées lui fournirent un début d'explication. « La magie, oui. Le général Outros a cru malin de détourner les rivières de la vallée, mais nous ne manquerons pas d'eau. Les sorciers ont anticipé la manœuvre il y a des lustres. En cas de nécessité, le flux peut être inversé. Du coup, si des assaillants tentent d'escalader la falaise, ils seront accueillis très fraîchement et rejetés tout en bas. » Une fois sur la rive, les deux jeunes gens remontèrent le quai, où étaient arrimées les deux barges en cours de déchargement. Commandés par un capitaine, ces petits bâtiments avaient un équipage très réduit. Quelques marchands d'Ildakar, des bourses pensues à la main, négociaient justement avec ces capitaines.
« Le grain ne coûte pas plus cher à produire, je parie, »
maugréa un des marchands.
« Et les poissons n'ont rien d'extraordinaire. Pourquoi cette augmentation soudaine des prix ?»«
Et que faites-vous du danger, mon bon sire ?»
se défendit un des vieux loups de fleuve.
« Pour que mes hommes consentent à venir jusqu'ici, je dois les payer plus. »
En outre, c'est la loi du marché en temps de guerre, dit l'autre capitaine. Vous êtes plus demandeurs que jamais, donc on peut vous prendre plus, du pur commerce.
Nous paierons,
capitula le marchand.
Ildakar n'a pas besoin de tout cet or. En revanche, je veux pouvoir me remplir l'estomac.
Il baissa les yeux sur un tonneau et eut un grand sourire.
Des anguilles, mon poisson favori. Je serai capable de dévorer la moitié du chargement.
Ayant entendu la conversation, Bannon ne put s'empêcher d'intervenir.
Les assiégeants sont dans la plaine et ils n'ont aucun moyen d'accéder au fleuve. Où est le danger supplémentaire ?
Le danger, jeune homme, il est partout,
répondit le premier capitaine. Son collègue acquiesça.
Mon ami Hanson vient de l'aval du fleuve, ce qui l'oblige à contourner les marécages, en étant quand même exposé aux attaques des dragons et des serpents géants. Avec une barge chargée de pierres, ça n'est pas un jeu d'enfant.
Hanson hocha de nouveau la tête.
Un des villages dans cette direction a été rasé par la faute d'un sorcier d'Ildakar et d'une morassite. De Tarada, il ne reste pour ainsi dire rien.
Lila se rembrunit soudain.
Une morassite et un sorcier?
C'est ça, ouais. Tarada était un village paisible au bord d'un bras mort du fleuve. Ces gens n'ont jamais embêté personne, croyez-moi. Mais le sorcier est devenu leur chef, et la morassite lui a cherché des noises. La plupart des villageois sont morts, et il reste à peine 3 ou 4 huttes intactes.
Hanson intervint de nouveau.
Moralité. Si vous voulez être livré dans des conditions pareilles, il faudra cracher au bassinet.
Nous paierons, je viens de le dire,
grogna le marchand, pressé d'en finir. Déjà, ses employés transféraient les tonneaux sur un monte-charge. Perplexe, Bannon souffla à l'oreille de Lila.
« Comment peut-il y avoir une morassite dans les marécages ? Le sorcier, tu crois que c'était Maxime ?»«
Ça, j'en ai la certitude. »
Lila tendit le cou pour regarder dans la direction des marécages, une masse sombre très lointaine.
« Et la morassite ? Je te parie que c'est Adessa. »